Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interview pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Sophie Roche-Conti. Elle est attachée de presse à New York. Dans cet épisode, elle revient sur son parcours. Elle nous parle de son expérience chez Fashion GPS, puis de la création de son bureau de presse à New York. Elle raconte la genèse et l'ambition qu'elle a pour son bureau, comment elle trouve ses clients, de comment aborder le sujet sustainability. Elle parle des réflexes à avoir quand on lance une marque, comment elle choisit les marques avec qui elle travaille, et on parle de beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Sophie. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner. Et surtout, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Sophie Roche-Conti, attachée de presse à New York. Bonjour Sophie.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Je m'appelle Sophie Roche-Conti. Et voilà, ça fait depuis que j'ai 19 ans que je travaille dans ce métier. En fait, à la base, je m'appelle Sophie Conti, mais je me suis mariée et mon mari s'appelle Roche. Et Roche-Conti, ça sonnait mieux que Conti-Roche, voilà. Alors, Sophie Roche-Conti, c'est comme ça.
C'est pas mal, ouais, c'est vrai que ça sonne bien. Et la seconde question que je pose en général, c'est est-ce que tu peux reprendre ton parcours depuis tes études supérieures, même depuis ton enfance, si tu penses que c'est important, jusqu'à aujourd'hui?
Bien sûr. En fait, je suis née en France, à Saint-Germain-en-Laye. Et j'ai pas mal déménagé quand j'étais petite. Mon père travaillait en parfumerie, travaille toujours en parfumerie. Et on a vécu en France quelques années. J'ai vécu à Londres 3-4 années. Je suis rentrée en France. Après, je suis éventuellement arrivée à New York.
Ouais. Comment t'es arrivée à New York ?
Pour le travail de mon père.
D'accord.
Et c'était pour vraiment le collège-lycée. Alors, j'ai passé mon enfance en Europe et les années plus... voilà.
Ouais.
aux États-Unis, mais j'ai un peu vraiment les deux cultures dans le sens que j'ai pas toutes les notions de pop culture française qu'on pourrait avoir quand on est au lycée ici, mais
tu rates pas grand chose, je crois.
Ouais. Bah, je sais pas, quand t'es en boîte et qu'il y a une chanson que tout le monde connaît.
Okay.
Okay. Mais bon, on va dire que j'ai eu une éducation qui était plutôt française, mais dans un contexte qui était typiquement américain, dans une ville dans le Connecticut à 45 minutes de New York qui s'appelle Greenwich, où j'ai grandi. J'étais à l'école publique américaine, alors c'était très démocrate dans le sens que voilà, c'était vraiment très américain.
Okay.
Et alors bon, quelque part, j'ai toujours su m'adapter parce que j'ai dû m'adapter beaucoup quand j'étais petite à plusieurs villes et situations différentes et tout ça. Alors je pense que quelque part j'ai toujours su voilà, c'était quelque chose qui était un peu inné, mais voilà, après je sais pas, j'ai toujours aimé l'humain, j'adore les gens et je pense que on m'a déjà dit à un moment, on m'a dit que la personne qui tu es au lycée, en fait, c'est qui tu seras toujours. C'est quelque part, tu changes pas beaucoup dans la vie. Tu peux devenir plus sage, tu peux avoir des expériences et tout ça, mais que en fait, the root of who you are, la racine de qui tu es,
ça bougera pas trop. Ouais.
Ça bougera pas trop.
Et c'est une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle pour certains.
Bah, oui, non, mais je trouve ça fascinant parce qu'en fait, c'est une leçon pour le pour s'accepter soi-même,
ouais.
pour juste voilà, d'être à l'aise, voilà. Et
dans ses baskets, ouais.
Exactement.
Enfin, il faut accepter, quoi.
C'est ça. Alors, après le lycée, j'ai toujours adoré la mode. J'ai vraiment toujours eu une grande passion par la mode. Ma mère, elle est prof à la Parsons School of Design. Elle
D'accord.
est professeure de style, de fashion design. Mon père, il travaille en parfumerie. Il a créé plusieurs parfums pour des grandes maisons. Alors, ça a toujours été un peu dans mon environnement quand j'étais plus jeune. Mais après, il y avait cette partie de, je sais pas, l'humanité, mais bon, je pense que quelque part, la communication, ça a toujours été intéressant pour moi parce que quand on est bilingue et quand on grandit en deux environnements différents, c'est on retrouve les nuances d'une langue et pas une autre. J'ai toujours eu des amis en Europe et des amis aux US. Alors on voit, je sais pas, toutes les tribus, les manières de, je sais pas, c'est en fait c'est j'ai toujours trouvé ça fascinant. Je sais pas les gens, j'adore les gens en fait, et j'adore les belles choses. Je suis balance et les balances, on adore les belles choses. Alors du coup, j'ai quitté le lycée, je suis partie à San Francisco un an, j'ai fait une université là-bas juste pour me donner un peu les idées au clair, parce que mon lycée en fait était très très compétitif, tout le monde allait entre Harvard, Brown, Yale, Princeton, etc. Alors c'était vraiment, c'était cool d'être intelligent. C'était pas cool d'être pas intelligent, quoi. Alors.
Et toi, t'étais intelligente?
En fait, oui, j'ai toujours eu des bonnes. J'étais toujours dans les bonnes classes et j'ai eu des assez bons SAT scores. J'ai toujours eu des bonnes testing scores. Mais j'étais très sociale et j'adorais faire la fête. Alors, j'ai pas toujours eu. Tu vois, j'ai eu des B quand j'aurais pu avoir des A, quoi. Ouais. Bon, après, je regrette pas, tu vois, mais oui, j'ai pas toujours eu des très très bonnes notes, mais en tout cas, j'ai pas eu de difficultés d'entrer dans des bonnes universités. Mais le plus important pour moi, c'était, j'avais vraiment besoin d'un an pour comprendre ce que je voulais faire, parce que je savais que j'étais très ambitieuse, mais je voulais pas me foirer, en fait, parce que quand on est jeune, tu vois, j'ai pas envie de dire que c'est pas que t'as une chance, mais que t'es que jeune. Once in a way, je veux dire, les premiers pas sont importants. Alors j'ai pris une année qui était incroyable, c'était vraiment exactement ce dont j'avais besoin. Je connaissais personne de mon lycée, j'étais vraiment seule, tu vois, on the West Coast, sur la côte ouest, en train de me, voilà, de réfléchir à ce que je voulais faire. Et je savais déjà que j'adorais la mode, je voulais faire quelque chose dans la mode. J'avais gagné, tu vois, c'était quand même un grand lycée, on était 3000 étudiants. J'ai gagné Best Dressed, c'était très très voilà, marquant quand on a 17 ans. Et pendant cette année à San Francisco, je me suis rendu compte que voilà, c'était aussi simple que ça. J'adorais la mode et j'adorais les gens. Pourquoi pas être, voilà, travailler dans la com, dans la mode. C'était presque scientifique, c'était 1 plus 1 égale, tu vois, c'était vraiment très logique comme décision, mais ça me sentait bien, en fait. Ça me paraissait faisable. Alors du coup, je suis rentrée à New York. J'ai passé un an en San Francisco. Je suis rentrée et j'étais à la Parsons School of Design, et j'ai fait un dual degré entre la Parsons et Eugene Lang, qui est en fait l'école de communication qui est rattachée à la Parsons. Alors j'ai fait un bachelor en communication. Et j'ai également pris des cours à la Parsons en design and management, qui est toute la partie business de la mode. En fait, ce qui est très bien dans cette école, ce qui était vraiment bien, c'était que on était que à l'école 2 jours et demi de la semaine, et les autres jours on était en stage.
Ah, d'accord, vous étiez en alternance.
Exactement. En fait, t'es toujours en alternance. En fait, c'est ton choix. Soit si tu veux vraiment être à l'école 5 jours par semaine, tu peux. Ou t'as le choix de proposer de faire des stages, et après on pourrait avoir des crédits en alternance, comme on dit en France. Ouais. Alors j'ai commencé mon premier stage. J'étais dans une agence de com qui s'appelle Freud Communications. C'était le petit-fils de Sigmund Freud qui a commencé ça entre Londres et New York. Et c'était vraiment une boîte de com très attachée de presse, célébrités, politiques. C'était vraiment, comment on dit, les publicists. Ouais. C'était vraiment ce genre de comique, crisis communique.
Des personnes publiques, personnages publics.
Exactement. Alors, d'accord. On s'occupait de Alec Baldwin, on s'occupait de même, si tu t'imagines, à l'époque, des hôtels Trump. Je veux dire, c'était très gros, très corporate, mais c'était une bonne expérience, dans le sens que c'était une première expérience, ouais. Mais bon, après, c'était pas assez créative, alors je savais tout de suite
quand t'as 18, 19 ans, que t'as envie de faire de la mode, c'est quand même pas très sexy, quoi. C'est pas le truc le plus cool. En tout cas, mais c'est une bonne école.
C'est sûr, c'est absolument sûr. Alors après, je suis partie, j'ai fait un stage chez Giuseppe Zanotti, qui les chaussures. Oui. Ça, c'était intéressant parce que aux États-Unis, on a une grosse culture de VIP et célébrité, et quand on a un produit qui est très flashy, VIP, etc. En fait, c'était vraiment génial parce qu'à l'époque la marque elle était toujours très petite. On avait voilà Solange Knowles, Beyoncé qui est passée, Ariana qui est passée au showroom, et c'était vraiment cette pré-culture où pas toutes les filles avaient des stylistes en fait, où elles venaient elles-mêmes, où elles venaient avec leur assistante personnelle. C'était plus niche, c'était plus petit. C'est parce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la mode, c'est vraiment devenu un énorme pilier, un pilier de médias en fait, comme la musique ou le film. La mode, c'est devenu vraiment, ça a grossi, je trouve, en ampleur.
Ouais, c'est devenu vraiment gros. En ouais. De com. Et qu'est-ce que tu faisais chez, on revient un petit peu en arrière, chez Freud and Associates là.
Freud Communications.
Freud Communications.
Alors là, je te parle de vraiment mes débuts. J'étais réceptionniste, je recherchais des contacts sur tu vois toutes les bases de données. En fait, c'était mon premier. J'ai mis mon petit doigt dans l'eau et c'était vraiment pour voilà pour
tester.
Pour tester, pour savoir ce que c'était. Mais bon, je pense que toute expérience sont des bonnes expériences, même si elles sont tu vois on peut jamais trop apprendre. Et c'est quand même très important d'avoir un certain. C'est bien de voir plein d'environnements en fait. Ouais, et ça n'a pas changé pendant en fait le reste de ma carrière. J'ai toujours vu plein d'environnements dont je t'en parlerai un peu plus tard. Mais après ouais, j'ai fait le gros saut alors chez Giuseppi. Et après ça, je me suis dit ok, bon, je suis française, ça serait quand même bien de faire une marque française. Alors j'étais en stage après chez Saint Laurent. Avec il y a eu Stefano Pilati qui était là à l'époque et ça c'était vraiment génial parce que c'était ma première expérience où on avait un peu on travaillait autour du créateur. Ça veut dire que juste après le show, on faisait les reporting de tous les reviews du show, et s'il y avait pas des bons reviews, on n'allait pas toujours les mettre dans le reporting. Et on comprenait vraiment comment comment s'adapter autour de la personnalité d'un créateur. Et ça, j'adore, en fait. J'adore comprendre la personne qu'on a devant nous, quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces, s'adapter et se mettre vraiment dans le bain d'une maison. Et j'ai toujours adoré l'expérience in-house. Je pense que c'est vraiment génial de toucher à tout, d'avoir le merchandising, le wholesale, le retail, de vraiment
voir toute la stratégie, ouais.
De voir tout, exactement. Sauf que j'étais au bureau de New York. Alors forcément, c'était une petite filiale. Je me suis dit, ok, je vais jamais rien en prendre dans une petite filiale. Tu vois,
c'était trop loin du business. Ouais.
Ouais, exactement. T'es trop loin du siège. T'es pas à côté du studio. Tu vois juste une petite, un petit côté. Tu vois. Après, bon, les US c'est quand même un très gros marché, mais je savais que je devais venir en France, à Paris. Alors je suis rentrée en France. J'ai trouvé un stage chez Dior, et ça m'a pris un peu de temps pour le confirmer. Mais en gros, j'étais confirmée le 5 décembre et le 3 janvier, j'étais dans l'avion. Alors c'était vraiment très très rapide. Et du coup, j'ai dû dire à mon école. On a mis en fait en stand-by mes études pendant un an pour que je puisse faire prendre ce poste en fait. Je suis venue en France. Bref, j'étais très américaine dans un milieu qui était très français, très 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 français avec. Oui, alors tu vois, moi j'étais très Sex and the City, tu vois, genre
très. Très, dedans, ouais. Très américaine en dedans, fond la caisse quoi.
Voilà. Et en fait, c'était pas du tout ça le mood, tu vois. Ça veut dire, c'est quand même une boîte qui est très, quelque part qui est très, c'est quand même sobre, c'est quand même politique, c'est LVMH, ce genre d'environnement. Alors, je crois que je suis passée un peu pour une folle, mais en fait, je suis arrivée quand même avec une attitude qui était assez américaine, qui était, je serai la première à arriver à la dernière partie. Je vais, voilà, le travail compte plus que tout. Je vais bosser. En fait, je suis là pour bosser. Je suis pas là pour, voilà, je suis là pour bosser. Et en fait, c'est là où j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires, des gens avec qui je suis toujours très, 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 très copain, et des gens qui, voilà, que j'ai retrouvé dans ma carrière plusieurs années plus tard. Notamment un très bon ami Hervé Cosmao qui s'occupe de la presse chez Margiela, Benjamin Bourgeron qui s'occupe toujours de qui a fait sa carrière chez Dior et maintenant qui s'occupe de la femme qui est le international PR manager. Alors c'est vraiment cool de connaître des gens depuis aussi longtemps et que tu restes aussi proche.
De les voir grandir et de grandir avec eux.
Ouais. c'était vraiment génial. Bref, je suis arrivée, j'avais, excuse-moi, j'avais quoi, j'avais 20 ans.
Oui.
Alors j'étais vraiment bébé, mais j'étais prête. J'étais vraiment prête. Alors j'ai fait cette expérience. J'étais là presque un an et j'ai vraiment compris ce que c'était de travailler dans une maison mère, de comprendre toutes les politiques en interne, etc. Et j'ai rencontré aussi Alexis Roche, qui était le petit copain de John, et c'était vraiment génial. C'était juste, ouais. Les shows, la prod, t'apprends, je veux dire, il y a toute cette partie qu'on constate pas aux US, parce que les US, quelque part, c'est un marché qui est naturellement très commercial. Et on n'a pas le temps d'apprécier les mêmes, je veux dire, le souci au détail est différent, on met plus l'accent sur l'efficacité que les détails. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment compris ça chez Dior. Dû au fait que j'avais un niveau d'anglais qui était assez fort, mais que voilà, mon français était un peu... en fait, j'ai grandi chez moi, j'ai grandi en parlant français avec mes parents, mais j'avais pas un français... voilà, alors imagine, toi et moi, toi t'as 20 ans, moi j'ai 20 ans, sauf que moi je parle comme une femme de 50 ans, en fait, parce que j'ai passé toute mon enfance à parler avec ma mère. et bon, j'avais quelques amis qui étaient toujours en Europe, mais mon niveau de français était pas... j'avais un français étrange, tu vois. J'avais
Il était pas actuel, quoi. Il était un peu.
Il était un peu old school.
Un peu old school, ouais.
Alors du coup, c'était bien pour voilà pour améliorer mon français. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Eddie Mullen, qui avait créé Fashion GPS.
Oui.
Aujourd'hui, qui est un outil que voilà toutes les, je veux dire 90% des grands bureaux de presse utilisent Fashion GPS aujourd'hui.
Ah oui.
C'est un outil indispensable. C'est vraiment le Bloomberg, ce qu'utilise les financiers. Pour moi, c'est ça. Pour
tu peux expliquer en quoi ça consiste pour les gens qui connaissent pas?
En gros, c'est un outil où en fait tout ton travail est géré par, en fait il y a tout qui est logué dans cet outil. Ça veut dire que tout le stock et les gestions des échantillons, le simple, en fait tout ce qui est sample trafficking, ça veut dire que t'as un showroom avec 1000 pièces, tout est géré par Fashion GPS. Ça veut dire que si aujourd'hui voilà il y a une demande pour le Vogue et que tu dois faire sortir 5 pièces, tu scans, tu fais ta sortie dans Fashion GPS, ça va relier cette sortie à une rédactrice. Alors tu sais que telle et telle rédactrice allait demander telle et telle pièce. Après ça te permet à gérer ton shopping en fait, où tu peux voir quand est les dates de shoot. Est-ce qu'il y a d'autres clients qui peuvent entrer dans ce shopping, qui peut être intéressant pour ce shooting. Après on fait le retour des pièces, ça te permet de faire les relances de manière efficace. Après on peut gérer les défilés, les listes d'invités dans cet outil. Ça veut dire que tu vas reprendre cette même fiche, cette même personne, cette même rédactrice du Vogue, tu vas l'inviter au défilé. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as tout l'historique de cette personne qui est notée. Et en fait, le boulot d'attaché de presse, c'est de maintenir des relations avec beaucoup de personnes et de le faire de manière très spécifique et très personnelle. Alors, en fait, c'est mieux d'avoir moins de relations, mais des relations qualitatives, que 1000 relations qui sont à moitié suivies. Et en fait, cet outil, ça te permet de vraiment traquer toute ton activité avec cette personne.
Toutes les interactions,
ouais. Ouais. Alors tu peux voir, ah j'ai envoyé 6 fois cette saison pour telle et telle rédactrice, mais en fait elle m'a jamais shooté. J'ai jamais eu de retour sur investissement. Alors en fait j'ai dépensé $500 en coursier, sauf que en fait j'ai eu rien. Ou en fait ça te permet à justifier. Ou en fait c'est génial. Voilà, je lui ai envoyé 3 fois, elle a shooté 1 fois. C'est super. Maintenant on sait qu'on va la mettre plutôt en première ou deuxième rang au défilé parce qu'elle a shooté. Alors, ça te permet de vraiment comprendre ta relation avec cette personne et de le quantifier, voilà, d'avoir des vraies données sur ces relations. Alors, j'ai adoré le concept en fait parce que c'est la technologie qui se marie avec l'humanité. Et en fait, c'est un outil qui nous permet de revenir vers le vrai métier d'attaché de presse. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance de laisser la tech prendre le dessus. Ça veut dire que envoyer un DM sur Instagram, ok, c'est très bien. Je veux dire, c'est bien de maintenir les relations et tout ça, mais ça change pas d'aller voir quelqu'un, de se déplacer, d'aller voir le show, d'aller dans leur showroom, de prendre un café avec eux. Je veux dire, les interactions humaines, de prendre le téléphone, de tout ça. Je veux dire, c'est bien de faire un peu de tout, mais en fait, l'important.
Ça remplacera la relation humaine.
Ça.
Le contact direct.
C'est ça. Et en fait, je trouve que quelque part, ça nous rend un peu paresseux. Je veux dire, tu peux poster des selfies depuis ton lit, et quelque part, c'est comme si tu... Oui, c'est vrai, c'est une forme, tu vois, you're engaging, tu es en train de t'engager avec le monde, mais...
Tu existes dans le monde, mais depuis ton lit, quoi.
Voilà. C'est un peu ça. Ouais. Ouais. Et non, et en fait, ce que ça, bon, après le discours du PDG de Fashion GPS m'avait vraiment inspiré parce que c'était vraiment OK, revenons sur en fait gagnons du temps, gérons ces shoppings, faisons nos listings, mais en fait le voilà pour créer du temps en fait pour sortir, pour pitcher des sujets, pour vraiment parce qu'en fait c'est ça d'être attaché de presse, en fait c'est d'avoir voilà son doigt sur le pulse, c'est de comprendre ce qui se passe en fait dans la
fashion sphere et dans le monde de la mode
et dans d'autres sphères aussi, dans la politique, je veux dire il faut être un peu au courant de ce qui se passe dans le monde, quoi.
Ouais. Ouais, tu peux pas être isolé, c'est clair. Et le partir chez Fashion GPS, sur quoi tu bases ton choix? C'était l'aventure entrepreneuriale qui t'a vendu, parce que tu quittais quand même un poste. C'était un stage ou c'était un poste chez Christian?
Alors en fait c'était un stage après un CDD que j'ai pas renouvelé parce que en fait Fashion GPS, c'est là où j'ai rencontré Fashion GPS, mais il y a une petite suite à l'aventure. En fait, je devais terminer mes études parce que j'étais un an chez Dior. J'avais 21 ans. Je dois rentrer à New York. Je terminais mes études. Et en fait, je savais après ce poste que je devais avoir une expérience en édito ma perspective, c'est comment être le meilleur attaché de presse possible si tu connais pas l'autre côté. Le côté
éditorial. Donc l'édito, c'est vraiment les magazines, faire des shootings mode avec les vêtements des shows des différentes marques.
Exactement.
Ce qu'on appelle un styliste.
Exactement, ouais. Exactement. Styliste, rédactrice, c'est exactement ça. Alors je suis rentrée aux États-Unis et j'ai terminé mes études. Et lorsque j'ai terminé mes études, j'étais en freelance au Harper's Bazaar, qui est un grand magazine de mode américain, qui est le plus vieux, encore plus vieux que le Vogue américain. Et ce qui était très intéressant, en fait, il y a dans un magazine, il y a la partie écrite, la partie features, où il y a les interviews avec les cover stars, avec les gens qui ont été shootés pour le magazine. Et après, il y a la partie mode, style. Alors, il y a des stylistes qui viennent peut-être une fois par mois pour shooter des séries dans le magazine. Mais après, il y a le bureau de mode qui est à plein temps, qui sont là pour... notamment choisir, en fait il y a des pages dans tous les magazines, on les voit, des pages nature morte avec en fait les tendances de la saison, c'est le léopard, c'est le floral, c'est le ci, c'est le ça. En fait on faisait les sélections des pièces qui fitaient, en fait qui correspondaient à ces sujets. Et après on était également les liens avec les marques pour passer les demandes de shopping pour les stylistes. C'était vraiment génial parce que il y avait toujours de l'énergie nouvelle dans le bureau. Il y avait l'équipe, the core team, l'équipe qui était toujours là. Mais après, il y avait toujours de nouvelle énergie de gens différents qui passaient dans le bureau. Alors c'était.
Les stylistes, les photographes qui sont en freelance, etc., qui sont sur des missions.
Et après, un jour, t'es sur le set. Un jour, j'ai shooté dans le Frick Museum avec la femme de Michael Bloomberg. J'ai shooté des trucs avec Kim Kardashian. Je veux dire, tu rencontres plein de gens complètement improbables et incroyables sur le lieu d'un shoot. Et c'est, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Quelque part, j'ai toujours eu ce truc d'entrepreneur, en fait. J'adore être un peu pionnier, j'adore me lancer dans un truc, et j'ai senti qu'en fait, si je continuais avec le Harper's Bazaar, et j'ai travaillé avec eux pendant un peu plus d'un an, en fait, j'étais entre le Harper's et après j'étais en freelance entre Karl Templer, qui est un styliste, qui était le fashion director de chez Interview, avec Ludivine Poisblanc, qui était également contributrice à l'interview, et avec le Harper's Bazaar. Alors pendant un an, j'ai travaillé entre les trois. D'abord à fond sur le Harper's, et après à la fin, j'ai vraiment splitté mon temps entre les trois. Et en fait, je me suis dit, OK, et maintenant quoi? Ça veut dire que je dois attendre
des années d'assistana pour devenir éditrice.
Ouais.
C'est ça. Hein,
mais en fait, sujet. Mais en fait, ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier dans le sens que c'est bien d'être patient, mais je sais pas. J'avais une faim. J'avais tellement faim. Je voulais juste tout apprendre et j'ai senti que j'ai compris. Et on peut toujours plus se perfectionner, mais voilà, j'ai senti que j'avais fait ce que j'avais fait l'expérience.
Ouais, t'avais appris.
Et pendant tout ce temps, j'ai eu ce PDG de Fashion GPS qui on était vraiment resté en contact et il m'a dit Sophie, j'ai besoin de toi. Franchement, je c'est un gros problème pour moi. On a l'Europe qui se développe à fond et on a personne qui parle français. On a personne qui c'est de la tech. On a du mal à vraiment percer et de maintenir des relations avec des marques de manière profonde, mais aussi, il y dit, je vois la manière dont Dior, par exemple, parce que Dior, lorsque j'étais chez Dior, ils avaient implémenté Fashion GPS chez eux. Alors, j'étais vraiment le point de contact principal, c'est moi qui gérais toute l'implémentation de Fashion GPS dans l'équipe du maire, RP. Alors, bon, j'étais un peu la personne avec qui, il avait le plus de contacts. Il a senti que j'avais vraiment compris l'outil, que j'aimais bien, je trouvais ça vraiment cool et intéressant. Et bref, il m'a embauchée. J'étais peut-être la quatrième personne qui était embauchée. Vraiment start-up mentality. Et c'était intéressant parce que en même temps, je passais des entretiens. Je savais que j'adorais la com et je voulais revenir éventuellement vers la com. J'ai passé des entretiens chez PR Consulting et j'ai rencontré une femme extraordinaire. Mais en fait, j'avais déjà, qui s'appelle Marissa Pucci, qui est aujourd'hui la VP de chez Dior aux US. Mais bizarrement, j'avais déjà accepté mon poste chez Fashion GPS. Je sentis que, je sais pas, il y avait toujours un truc dans la com qui me tirait. J'étais là, oh, et mais après, en fait, Fashion GPS, c'était tellement unique. C'était tellement maintenant ou jamais qu'il fallait que je tente.
Sauter, ouais.
Il fallait que je tente, en fait. Alors, j'ai passé un an à New York avec Fashion GPS à New York. On avait, en fait, on a digitalisé toute la processus, en fait, des défilés à New York, la Fashion Week de New York, qui est organisée de manière complètement différente que la Fashion Week à Paris. En fait, il y a un grand endroit. À l'époque, c'était Bryant Park. Après, c'est devenu Lincoln Center à Manhattan, où en fait, il y a quatre endroits dans ce grand hangar, ce lieu, où quasiment tous les shows se passent là, sur place. Après, il y a quelques shows qui sont en dehors, mais vraiment, voilà, la majorité des shows se passent là-bas. Et on avait créé ce système, en fait, où encore plus loin que le système de base que les attachés de presse utilisaient en interne chez eux, on avait créé ce système où, en fait, toutes les invitations étaient digitales pour tous les défilés. Et c'était, imagine un aéroport. T'arrives, tu scannes ton invitation, t'arrives, et t'es assis. Et en fait, c'était un projet qui était hyper intéressant, qu'on travaillait en lien direct avec IMG, qui est une très grosse boîte de... Voilà, c'est un agent mannequin, c'est... voilà, IMG, c'est... Voilà. C'était vraiment... fou. C'était un peu fou comme expérience parce que c'était tellement gros, c'était un tellement gros projet. On était quatre, tu vois. On était quatre. On était un technicien de la Roumanie, moi, qui savait bien parler avec les attachés de presse, avec les marques parce que j'avais ce langage. Ouais. En fait, et après notre PDG et après peut-être une autre personne.
Et lui, le PDG, il avait quoi comme background?
Vraiment en IT, en tech.
Ah ouais.
Et en fait, il était embauché par KCD pour créer un système de tracking d'échantillons.
D'accord.
Et ah en oui. fait, Fashion GPS a été créé avec KCD. Et en fait, c'est ça qui est fou. Et après, il a vendu... après...
KCD qui est un bureau d'attaché de presse très connu aussi.
Exactement, exactement, avec des bureaux à Paris et à New York. Et à Londres, je crois. Dont on a travaillé de manière très très proche, qui sont devenus un peu des consultants... pour la plateforme Fashion GPS, parce que forcément, les besoins des attachés de presse ont été tellement précis dans un bureau qui était très voilà, prestigieux. On a vraiment développé, ils ont, à la base, Eddie il a développé cet outil avec ACD. Alors moi, je suis arrivée juste au moment où ça commençait à se développer avec... Ça sortait de KCD et il venait de commencer avec Marc Jacob en interne. Et après, il est arrivé chez Dior. Et après, dès que je suis arrivée, on avait une équipe qui était vraiment dynamique et jeune et cool. Et voilà, en fait, voilà, c'est parti, quoi. C'est parti. Alors, pendant un an, j'étais à New York avec lui. Et on a construit l'équipe à New York. Après, il y avait une micro-équipe qu'on avait créée à Londres. Et j'ai senti que, en fait, j'étais au téléphone tous les jours avec Dior et avec, j'étais au téléphone tous les jours avec l'Europe. Et j'ai dit, Eddie, je pense que voilà, l'équipe maintenant à New York, elle est construite. Tu vois, vous êtes pas seul. Il y a le business tourne. Peut-être que mon temps serait plus,
productif. Ouais.
Productif en Europe. Et pour vraiment développer le business en Europe, quand on voit, voilà, il y a LVMH, il y a Kering, il y a Richemont, voilà, il y a des grands groupes en Europe, et peut-être qu'on pourrait utiliser Dior un peu comme un case study, comme un exemple de comment on peut utiliser Fashion GPS de manière plus vaste. Et de vraiment, parce que surtout la tech en Europe, j'ai senti qu'il fallait qu'on amène un côté très humain et très, de comprendre au quotidien, en fait, comment est-ce que cet outil allait vraiment, être actif dans notre quotidien, en fait, parce que c'est vrai, c'est énorme de demander à quelqu'un de changer, et même si parfois c'est chiant, je veux dire, si aujourd'hui on me dit non, tu fais plus d'email, maintenant tu fais que des fax ou tu fais que des voilà.
Ouais, c'est un peu pénible.
C'est un peu pénible, et quelque part en fait tu détestes la personne qui te dit ça.
Qui t'impose un truc pareil.
Ouais. Ouais. Mais après, si tu leur fais comprendre, je veux dire, et si tu es là avec eux pendant toute la processus de changement, si tu es vraiment là
physiquement,
ouais. Physiquement, tu es là pendant 2 semaines en train de le faire, et après ça devient presque drôle, tu vois, on est ensemble, on se marre,
Ouais, et puis tu utilises des liens très forts.
Ouais.
Et ça, c'est malin, ça.
Et bref, je suis arrivée en Europe, j'étais à Londres 6 mois, et en fait, on s'est rendu, j'étais à Paris, j'étais dans le Eurostar une fois par semaine, on sentait que ça devenait vraiment gros, Fashion GPS. C'était vraiment, ça devenait très très gros. Je veux dire, j'avais 24 ans et on avait des, je sais pas, on avait rendez-vous avec je sais pas, le CTO, le Chief Technology Officer de chez Chanel, le CMO de chez Dior Jewelry.
Les gens l'adoptent tout de suite. Ils trouvent que l'idée est vraiment géniale et que c'est bien foutu et que ça leur fait gagner beaucoup de temps et améliorer
les relations. Ça a intrigué tout le monde, mais tout le monde avait un peu peur. Et en fait, j'étais un peu juste la seule. Comment dire? Déjà, ça devenait très gros aux États-Unis. Alors, je pense que c'était un peu le nouvel outil des États-Unis qui
buzzait, ouais.
Exactement. Alors, je pense que ça a aidé ici de la perception de l'outil. Ah, ok, c'est cool. Ça,
les Américains l'utilisent. Il faut qu'on s'y mette aussi.
Exactement. Exactement. Alors, je pense qu'il y a eu ça. Et après, oui, je veux dire, c'est un investissement maintenant, mais après, ça va vraiment te faire gagner du temps, quoi.
Ouais. Et c'était quoi le modèle économique? C'est un abonnement? C'est un.
Abonnement mensuel.
Mais toi, c'est génial ce truc, parce que ça te permet de connaître tout le monde, en fait, dans la mode, quoi. Tu rencontres absolument tout le monde, tous les attachés de presse de France et de Navarre, enfin, en tout cas de France, de Paris, tu les connaissais, quoi.
Non, c'était vraiment cool, c'était vraiment très bien. Et pour être honnête, j'ai senti que le business que Fashion GPS m'avait, le business avait besoin que je revienne en Europe. Mais quelque part, après Dior, c'est pas que j'avais extrêmement envie de revenir à Paris. Tu vois, j'étais partagée. En fait, je m'en foutais quelque part, mais c'était pas la ville que je trouvais la plus. J'ai senti le challenge, en fait, avec Fashion GPS. C'était pas, tu vois, c'est facile quand t'es, une maison avec un savoir-faire, et une tradition. Tu vois, c'est facile d'être ça à Paris. C'est pas facile d'être Fashion GPS à Paris.
D'accord.
Mais, quelque part, c'est ce challenge qui m'a attirée.
Ouais, je comprends.
Et en fait, voilà, j'avais rien à perdre, tu vois. Alors, why not?
Ouais.
Alors, je suis partie, et Fashion GPS Paris, ça a commencé dans mon appartement, dans le 16e arrondissement. Et voilà, c'est parti. J'ai rencontré plein de marques, et ça a pris, écoute, le business s'est développé de manière gentiment, voilà. Ça s'est bien développé. Pendant 3 ans, on a commencé, on avait peut-être que Dior, après on a signé Saint Laurent, après on a signé Lanvin, après on a signé Gucci, après on a signé, on a continué avec des plus petits bureaux de presse, avec David Duroir, c'est Vivienne Westwood, avec.
Ça a vraiment pris.
Ça a vraiment pris. Et on a fait un projet également avec Saint Laurent qui était hyper avec Givenchy que j'ai adoré. On a mis toute l'archive Givenchy dans Fashion GPS.
D'accord.
Ça veut dire que si Claire Wright Keller elle veut trouver une jupe de l'année 57 dont Hubert elle cherche dentelle noire jupe année 57, elle sait exactement où est cette jupe, dans quelle archive, à quelle personne elle doit demander cette jupe.
Ouais, donc ça allait vachement plus loin qu'un outil pour les attachés de presse.
Exactement. C'était une manière de vraiment s'organiser. Parce qu'en fait, et comme tu peux le savoir, je sais que tu as interviewé Alexandra de chez Tag Walk, on a une industrie qui est très pauvre en tech. Parce que je pense que les gens de la mode sont naturellement plus créatifs et que la tech a jamais été... c'était peut-être, je sais pas, le mariage entre les deux. Ça a pris plus de temps, en fait, pour s'articuler. Mmh. Et c'était très nouveau, quoi. Très cool et très... En fait, il y avait tout à faire. Et tu as absolument raison. C'était plus que rendre service aux attachés de presse, dont c'était très important parce qu'on a tellement de travail minutieux qu'on pouvait vraiment en bénéficier. Mais en fait, ça a aidé à créer des connexions entre tous les départements. Surtout à Paris, on a des archives de malades. Je me rappelle quand on était chez Dior, on devait rappeler, Anna Wintour avait besoin d'une robe qui était à Blois, qui était une heure et demie de Paris. Et c'était tout un truc pour la retrouver, pour machin. Et
avec ça, en appuyant sur le bouton, ça fonctionnait pas.
Exactement.
Tu gagnais vachement plus de temps. Ok, très bien. Et donc là, tu restes combien de temps chez Fashion GPS ?
4 ans au total, 3 ans à Paris.
Ouais.
Et on a grandi le business. Je veux dire, quand je suis arrivée, on va dire qu'on a fait x10 en 3 ans.
T'avais des parts, toi, là-dedans ?
J'avais des... j'avais des... Comment dire ? Des
royalties, donc on appelle... Non, des...
C'est des parts qui sont activées après X nombre d'années dans la boîte.
D'accord.
En fait, alors j'avais des parts, c'était très motivant aussi d'être jeune et d'avoir comment on dit en anglais, skin in the game.
Ouais.
Exactement, d'être, c'était ça qui était motivant, surtout.
C'était faire grossir le business, ouais.
Ouais. Mais bon, c'était, comment dire? J'étais pas à l'abri de, tu vois, quand t'es la seule personne sur le territoire, il y a tout qui est ton problème, en fait. Tu vois, il y a le cash flow est ton problème, payer les salariés, c'est ton problème. Le problème, si Dior, ils ont un problème à minuit, c'est ton problème. Si Carla Otto, ils ont un problème à 6h du matin le lendemain, c'est ton problème. Alors, en fait, c'était juste H24 pendant 3 ans.
Mmh.
Et à la fin, c'est devenu tellement intense. J'étais à Milan une fois par semaine. J'étais en Russie, j'étais au Japon, parce qu'avec Gucci, on travaillait de manière très très proche aussi sur plein de projets, sur l'événementiel, sur le musée. C'est devenu tellement énorme et tellement intense que quelque part, j'ai senti que c'est pas que je pouvais plus rien apporter, mais que c'était devenu tellement gros que en fait, ils avaient plus besoin de la touche humaine que j'aimais tellement. Et en fait, ce qui manquait aussi, c'était le côté produit. Et que quelque part, je me retrouvais parfois plus proche de mes clients parce que mon équipe, en fait, c'était juste moi et une assistante.
Mmh.
Et j'ai senti qu'on devait faire grandir la structure en France. Et en fait, on pouvait pas faire grandir la structure en France parce qu'on était techniquement une sous-structure de la structure au UK. J'ai senti que ça bloquait, qu'on n'arrivait pas à développer comme on avait besoin en France et que, en fait, la partie produit me manquait, tu vois, les fringues me manquaient, la créa, tu vois, ça. Je devais revenir vers ça. Et j'avais 25 ans, alors je savais que c'était maintenant ou jamais. It was now or never.
Ok. Et donc là, qu'est-ce que tu fais comme switch ?
Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme switch? C'était très gros pour moi de quitter Fashion GPS. C'était vraiment, c'était énorme parce que quelque part, quand on a créé ce truc, on était 4 et quand j'ai quitté, on était plus de 50. Et c'était.
C'était une page qui se tournait. Ouais.
C'était une page qui se tournait, exactement. Alors après, j'ai fait beaucoup de consulting, pas mal de consulting en digital. J'ai fait des projets. Alors j'ai continué à travailler un peu avec Gucci, avec Carla Botto. J'ai fait vraiment beaucoup de consulting en digital, en presse, même en image. J'avais beaucoup d'amis créateurs ici à Paris qui venaient parfois à New York. Alors je les aidais, je leur présentais des rédacteurs, des copains à New York. J'ai toujours un peu adoré, connecter les gens, etc., de trouver des mariages, des partenariats, ce genre de trucs. Éventuellement, j'ai rencontré une femme incroyable qui s'appelle Catherine Miran, et dont j'avais présenté Fashion GPS 3 ans avant de l'avoir re-rencontrée. Et quand j'ai rencontré, elle avait l'idée de investir, d'ouvrir un bureau à New York. Et en fait, elle cherchait la bonne personne pour diriger ce projet. Et on s'est rencontrés et c'était un peu coup de foudre. J'avais déjà entendu parler de son bureau à Paris. Je le connaissais un peu de loin, mais quelque part, moi, j'ai toujours eu des expériences dans le luxe et c'était un bureau qui était un peu plus populaire quelque part. Et j'avais pas vraiment d'expérience d'autant dans ce genre de mode. Mais ça m'intriguait parce que c'était un bureau qui faisait 35 ans qu'elle était sur le marché en France. Elle a quand même une équipe de plus de 30 personnes. C'était vraiment un très gros bureau. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle savait lancer des créateurs. C'est-à-dire que c'est Catherine qui était avec Isabelle Marant dès le début.
Elle a lancé énormément de gens.
Ouais.
Ouais. Peut-être dit en 2-3 mots qui c'est, parce qu'elle est quand même assez importante dans le monde de la mode.
Absolument. Alors Catherine Miran, c'est une attachée de presse à Paris. Elle a lancé son bureau en 1981, quand elle avait 19 ans, je crois.
Ouais.
Vraiment, elle est sortie du lycée, elle a lancé son bureau. Alors elle a une histoire qui est vraiment assez incroyable. C'est une vraie entrepreneuse quelque part. Et ce que j'adore également, c'est qu'elle a lancé des gens tels que elle a travaillé avec Guillaume Henry chez Carven, elle a piloté le relancement avec Carven. Isabelle Marant, quand on a rencontré Isabelle, elle créait des bijoux, elle faisait même pas encore de la mode du prêt-à-porter. Alors pour t'expliquer, elle est vraiment là dès le début, vraiment la racine de quelqu'un. Elle a relancé des marques comme Repetto, comme Villebrequin, vraiment des très belles marques françaises, Petit Bateau, des marques, c'est des marques qui sont très proches à mon cœur quelque part.
Qui font partie vraiment de l'histoire de ce pays, quoi.
Ouais. Exactement. Non, et j'adore, et quelque part, c'est vrai, un t-shirt Petit Bateau, c'est 18 euros, mais c'est le t-shirt parfait, quoi.
Et on a tous un petit t-shirt Petit Bateau. En tout cas, quand on était gamin, on avait tous un petit t-shirt Petit Bateau.
Oui, c'est ça.
D'accord. Mais explique-moi pourquoi elle vient te chercher, toi. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'elle te fait confiance à toi?
Je sais pas, ça fitait. Je pense que je l'ai peut-être fait penser à peut-être elle quand elle avait mon âge. Je sais pas, il y en a une.
Oui, c'est vrai. Et puis, de toute façon, elle a lancé son business tellement jeune qu'elle se dit, l'âge, c'est pas un souci, en fait. La nana, elle est dynamique, elle est sympa, elle est douée pour ce qu'elle fait. Why not?
Ouais, exactement. Et on a été présenté par Hugo Mata et Nicolas Ouchnir, qui sont des amis très chers. Et on a même partagé un bureau ensemble avec Fashion GPS. On avait, c'était génial. Il y avait Fashion GPS, Pia De Brandt, qui est une femme incroyable aussi, et Nicolas Ouchnir et Hugo Mata. Alors, on était vraiment un bureau un peu de cinglés, de gens qui travaillaient un peu H24, mais c'était super. C'était vraiment un super moment. Bref, j'étais présentée à Catherine et on a quand même pris notre temps. On a pris notre temps, c'est-à-dire qu'on a pris un an et demi pour vraiment réfléchir au business plan, pour réfléchir à ce qu'on voulait faire, qu'est-ce que c'est quoi qu'un bureau, de vraiment étudier, c'est quoi ce truc. Et je lui dis, ok Catherine, tu sais, il y a un moment où il faut juste se lancer en fait. Il faut juste le faire. Et c'est très bien de voilà, il faut qu'on ait une idée claire, mais en même temps il faut juste le faire. Mmh. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'était sur en fait sur le marché américain, on est pauvre en fait on est un peu pauvre en culture de tradition, de souci au détail, à une approche peut-être plus européenne qui est la profondeur. Qui est même prendre le temps de passer, je sais pas, même si je dois passer 2 heures au téléphone avec un client, je le fais, ou avec un, tu vois, si de pas compter son temps, mais de vraiment d'aller au bout.
Donc c'est quoi alors la culture d'entreprise que tu as installée dans ton bureau?
Alors mon bureau, non, et c'est pas pour dire que tu vois, je fais pas mieux ou moins bien que les autres. Mais je pense qu'il faut que ça te ressemble en fait. Ouais. Et bon, il y a des bureaux qui font des choses très très bien, mais bon, je pense qu'il faut pas trop regarder les autres, il faut juste faire ce que tu sens. Mmh. Alors, en fait, c'est que toutes les marques doivent se. Ça commence avec les marques en fait, parce que les marques sont tes cartes à jouer. C'est ton jeu de cartes. Et les marques que tu représentes, il doit avoir un lien entre tout le monde, je pense. Il faut qu'il y ait une cohérence en fait. Il faut que ça soit. Tu vois, l'idée c'est que t'arrives dans le bureau et que ça fasse. C'est un peu boutique, mais c'est un peu salon en fait. Alors tu te sens comme si t'étais un peu chez quelqu'un, mais sans que ce soit. C'est intime, mais c'est pas trop personnel. Et en fait, on raconte. Tu vois l'histoire de chaque marque de manière très individuelle, mais tu vois vraiment les connexions entre tout le monde. Ça veut dire que on va commencer avec une très bonne copine qui s'appelle Elisabeth. Son petit nom quand elle a grandi, c'était Foufou. C'est la fille de Tommy Hilfiger et elle a lancé une marque incroyable de streetwear, mais elle a fait le RISD, qui est une université en art. Alors c'est du streetwear qui est vraiment inspiré par, elle a des références artistiques qui sont, en fait c'est comme une, en fait c'est une directrice artistique plus qu'une créatrice, pas une styliste. Et elle a créé un univers autour de cette marque avec, en fait qui est basé sur un concept de collaboration constante. Ça veut dire qu'elle a une collaboration tous les mois qui sort avec des gens hyper intéressants. Là, elle a une collaboration qui va sortir le mois prochain avec un photographe très connu qu'on connaît tous. Elle a fait une capsule avec Lil Michaela, qui est la personnalité digitale, tu vois, l'influenceuse digitale qui est basée à Los Angeles. Elle a fait des collaborations avec le directeur de vidéo de Jay-Z qui l'accompagne sur tous ses concerts. Elle a vraiment un mode de fonctionnement qui est hyper, je sais pas, innovateur. C'est très nouveau. C'est une collaboration constante en fait. Et elle a du contenu nouveau qui en fait son site web, c'est vraiment une expérience. C'est une expérience digitale. Elle a beaucoup investi dedans et c'est de son âme en fait. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, c'est vraiment une fille dingue. Et à côté d'elle, alors ça c'est vraiment le côté très jeune street, New York, etc. Après, de l'autre côté, je travaille avec par exemple une Yasmine Eslami, qui est une créatrice de lingerie et de maillots et de swimwear, qui a commencé sa carrière chez Vivienne Westwood. Et bon, Foufou par exemple, elle connaît très bien Vivienne. Alors il y a tout qui se retrouve éventuellement, exactement. Elle a travaillé plus de 10 ans là-bas et elle a un parcours aussi qui est très très intéressant. Mais elle est surtout très douée en tout ce qui est corsetterie, lingerie. Elle a vraiment une patte et elle a une expression de la lingerie en fait qui est subtile mais très raffinée, très 70s, très parisienne. C'est pas le côté boudoir froufrou, c'est vraiment l'antithèse et c'est vraiment une référence. Il y a beaucoup de marques de lingerie qui la prend en tant que référence parce que c'est vraiment extrêmement beau ce qu'elle fait. Et c'est vraiment la marque fétiche de toutes les plein de filles, voilà, de notre génération. et c'est une femme absolument extraordinaire. Et surtout, elle fait de la lingerie de toutes les couleurs. Alors, on a des demandes vraiment incroyables pour sa lingerie, entre voilà les Rihanna, Katie Grand du Love Magazine, le Vogue, Kate Moss. Je veux dire, on a des images de vraiment de femmes extraordinaires qui portent sa lingerie.
Mais alors, à chaque fois que tu rentres d'une nouvelle marque comme ça, tu c'est quoi c'est... Alors déjà, comment tu les abordes et comment tu les fais rentrer dans ton bureau et comment tu les convaincs de te rejoindre? Et deuxièmement, comment tu vas écrire avec elle la stratégie de la marque et comment vous allez déployer cette stratégie?
Les rencontres se font de manière tout à fait organique, en fait. C'est toujours par la rencontre de quelqu'un, en fait.
Est-ce que toi, tu as une dream list dans ta tête, une wish list dans ta tête? Et tu te dis comment je vais aller chercher cette marque-là. Est-ce que c'est ou c'est complètement
Tu sais ce qui est complètement fou. Oui, au début, j'avais une wish list comme ça. Oui. Mais tu sais quoi, ça fonctionne jamais. Je te promets. C'est il faut le laisser. Comment dire C'est dur dans le sens que quand t'es un nouveau bureau, ils ont pas de point de référence. Tu vois, je suis un nouveau bureau, je suis seule sur le terrain, qu'est-ce que je fais, en fait, tu vois? Alors, il faut avoir un case study, il faut avoir un exemple de quel genre de travail tu fais. Il faut avoir, comment dire, une preuve du concept, en fait. Alors, je pouvais pas tout de suite aller attaquer les marques de mes, comment dire, les grosses. Il fallait que je commence avec des marques qui m'inspiraient vraiment, mais qui étaient peut-être à taille humaine. En fait, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Et il faut commencer par des marques qui t'inspirent, tu vois. Et après, il faut laisser le chemin se dévoiler pour toi, en fait. Et quelqu'un, oui, je veux dire, quelqu'un m'a déjà dit, en fait, c'est le travail qui va parler pour lui-même. Tu peux pas, ça ne marche pas. Tu peux pas aller dans un meeting et dire, mais je suis ci et je suis ça et je suis ci. En fait, ouais. Tout le monde s'en fout, tu vois.
Je te juge par les actes. Ouais.
Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, et en fait, ta réputation, ouais. elle vient de ton travail. Et ouais. En fait, il faut juste bosser. Franchement, tu t'en fous du reste. Tu t'en fous complètement du reste. C'est pas la manière dont tu te vends. En fait, non, c'est le travail que tu fais pour ton client. Si t'es passionné, si tu crois dans ton client, si tu le sens, ça se fait. Et quand tu fais du bon travail,
ça se sait.
Ça, exactement. Oui, le bon travail est rémunéré avec plus de travail. En fait, c'est ça. Tu vois, c'est ça la compensation du bon travail. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Je le sens. Si tu dois travailler avec une marque avec qui tu aimes pas, ça va pas marcher. It's not gonna work. Et en fait, c'est un peu ça le problème, je trouve, avec les grosses agences, c'est que quelque part, ils ont ils ont des charges tellement importantes qu'ils doivent faire entrer des marques pour couvrir leurs charges, les loyers, les salaires, etc. Qu'il y a un moment où forcément tu dois faire entrer des marques, une marque que peut-être que tu es moins fan qu'une autre, et qu'à la fin, si cette marque se retrouve dans une équipe où les gens sont moins. Tu vois, ça donne du. C'est pas bon, en fait. C'est pas un bon modèle de fonctionnement. Et je pense que c'est mieux d'avoir une boîte à une taille humaine où on fait du travail exceptionnel.
Vous êtes combien, vous?
On est 4.
D'accord. Et les gens avec qui tu bosses, tes collaborateurs, tu les as choisis comment? Sur ces critères-là, de voir des gens qui sont passionnés et qui sont amoureux des marques?
Oui, surtout ça. Mais je pense que c'est surtout une équipe, c'est comme un puzzle où les gens doivent complimenter les forces que je n'ai pas, les forces que j'ai qu'elles n'ont pas.
C'est surtout en termes de réseau et en termes de connexion avec des influenceurs, des influenceuses, des journalistes, ou c'est quoi?
C'est
quoi les skills d'un bon attaché de presse?
Les skills d'un bon attaché de presse, ouais. L'organisation, fiabilité, ouais. De base, si t'es pas organisé et si t'es pas fiable, t'es foutu. Ça veut dire que t'as tellement de choses à gérer, des shoppings, des demandes d'interviews, des trucs, des machins, t'as peut-être 50 choses qui se passent en même temps. qu'il ne faut jamais perdre le fil sur ces 50 choses.
Alors, et comment tu fais alors pour ne pas perdre le fil?
Il faut avoir une to-do list que tu mets à jour toutes les 30 secondes.
Toi, tu l'as quoi, sur un agenda ou c'est sur...
J'ai sur mon téléphone.
Sur ton téléphone. Tu utilises quoi comme outil?
J'ai testé tous les outils. J'ai testé les outils, c'est un espèce de task, un donneur de task, en fait.
Ouais. Asana, un truc comme ça, non?
Ouais. Mais en fait, le mieux, c'est mon notepad et je suis obsédée avec mon Google Calendar. Ouais. C'est-à-dire que je vais créer des reminders dans mon calendrier pour, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de faire ci. Et après, j'invite telle et telle personne et après, c'est bien, t'as ton réveil.
Ça marche bien, ça.
Google Calendar pour tout. N'oublie pas d'envoyer ce pitch. N'oublie pas de, tu vois, c'est le Saint-Valentin. Dans 20 jours, il faut qu'on commence à pitcher les médias digitaux. Calendrier, notepad, réveil, voilà.
Et t'as un...
Il faut pas avoir trop d'outils non plus, sinon
ouais,
t'es perdu.
Sinon t'es perdu. Ouais. Mais là, je pense à un truc. Là, ça me fait penser à une question. Quand tu parles de rétro-planning, tu parles de Saint-Valentin, c'est dans 20 jours. En général, dans ce métier de la mode, on a combien d'avance par rapport à un événement?
Ben là, on est déjà en train de parler d'événements qui vont se passer en 2020.
Ouais.
Alors.
Parce qu'une collaboration, tu parlais de foufou, une collaboration, elle ne se prépare pas le mois d'avant pour le mois d'après, quoi.
Non.
Donc, c'est un rétro-planning dans la tête qui est assez.
Après, ce qui est génial, c'est que quand la marque elle est plus petite. Quelque part, il faut être plus organisé parce que il y a peut-être moins de budget. Alors forcément, il faut pas faire les choses à la dernière minute. Mais en même temps, il y a plus de flexibilité dans une autre sens parce qu'il y a moins de, comment dire, il y a moins de gens à faire valider les projets, etc. Mais en presse, 6 mois. En fait, c'est 6 mois. Là, on est en train de parler des numéros de juin, mai, juin, en print. En digital, 6 semaines, 1 mois. Et en fait, on pense toujours, ouais, là...
Revenons sur les skills.
Les skills.
Parce que voilà, je me mets à la... Enfin, moi, si demain, je veux devenir attaché de presse, qu'est-ce qu'il faut, quoi? Ou bon. Si les jeunes gens qui nous écoutent et qui veulent devenir attaché de presse, qu'est-ce qu'il leur faut?
Alors, jeunes gens, vous êtes organisés, vous êtes fiables. Okay, vous répondez au téléphone, vous répondez aux emails, vous répondez sous 24 heures. Même si c'est bien reçu, je reviens vers toi demain. Mais j'ai besoin d'une réponse de ta part. J'ai besoin que tu me répondes. J'ai besoin que de savoir, même si tu as lu. Parce que, tu vois, il y a des sujets qui se bouclent, tu vois, avant la fin de la journée. Tu vois, le timing, c'est un boulot de timing. C'est presque comme du théâtre, dans le sens que tu dois vraiment faire attention au timing tout le temps. Et de constamment réajuster ta liste de priorités pour assurer que tu sois aligné avec le timing. À part ça, il faut être curieux. Il faut vraiment avoir une curiosité des gens, de leur monde. Il faut être curieux, tu vois. Et je pense que pour être un bon attaché de presse, il faut lire, tu vois. Il faut lire la base. Il faut lire Women's Wear Daily. Il faut lire le Business of Fashion. Il faut écouter Entreprendre la mode.
Merci. Vous entendez?
il faut être curieux. Il faut savoir ce que les autres marques font, mais pas par obligation, par pure curiosité. Ça veut dire que, et je pense que pour être curieux, il faut kiffer, il faut aimer la mode. Et surtout, je pense que moi, j'adore être... Bon, après, c'est très personnel. Chaque personne a leur propre désir. Moi, j'adore être autour de gens créatifs. Surtout les gens qui sont plus créatifs que moi encore. Moi, je suis quelqu'un de très entrepreneur et très créatif dans ce sens-là. Et j'adore le storytelling, j'adore parler, j'adore communiquer, j'adore rédiger un mail, j'adore penser aux axes, j'adore penser aux obstacles surtout, et aux perceptions, tu vois. Il faut que, tu vois, c'est quoi la perception de cette marque, où est-ce qu'on est faible, où est-ce qu'on est fort. Mais il faut être au courant de tout, parce que aujourd'hui, tu vois, le monde, il se développe tellement rapidement qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui sont très tabous. Par exemple, tu vois, on a une question de diversité qui est très importante. C'est impensable d'avoir une campagne de pub sans avoir, ou de défiler sans avoir un casting qui est divers. Avec plusieurs races, plusieurs âges, etc. Tout ce qui est sustainabilité, l'environnement, énorme, les plastiques, etc.
Ça, c'est un vrai sujet. Ouais.
Ça, c'est un vrai, vrai sujet.
Et comment ils l'abordent, d'ailleurs, toutes ces marques-là, toi, tes clients, comment vous abordez ce sujet-là? La sustainability, j'ai l'impression que dans la mode, c'est tout le monde y va encore un petit peu à...
Ouais.
Tout doucement, quoi. Et je comprends pas, parce que c'est quand même un vrai problème de société, et tout le monde, ouais. Et tous nos, enfin, tous les clients et tout le monde en prend conscience, quand même.
Ouais. Oh non, c'est un gros problème.
Pourquoi les marques, elles savent pas par quel bout le prendre, c'est dingue.
C'est un gros problème, et je pense que ça peut commencer juste en interne. Ça peut commencer avec, voilà, on.
Ouais, mais là, il y a une urgence de malade, quoi. Il faut vraiment se bouger le cul. Et pourquoi? Parce que je suis sûr que les clients, ils sont prêts à l'entendre.
Oui. Oui, après, il y a les marges. Ça veut dire que si on parle du produit en lui-même, il y a des tissus qui sont sustainable, il y a des usines qui sont des, ce qu'on appelle des B Corp. Une B Corp, c'est une corporation qui est validée par, c'est particulièrement américain, je ne sais pas si ça s'applique à l'international. Mais en fait, c'est une société qui est validée pour être une société qui est en harmonie avec l'environnement. Ça veut dire que toutes les process de cette société sont sont sustainable, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plastique en interne, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de. Et c'est assez dur, en fait, pour être pour avoir cette validation. Mais après, il y a des avantages sur le point de vue impôt dès que t'es validé ce genre de société. Après, c'est un vrai investissement. Mmh. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de différents genres de marques, où les marges font le business. Et c'est vrai que pour changer certaines procédés et pour devenir sustainable, ça va. C'est une question de voilà, de changement de fournisseur, de changement de tissu, de changement de fonctionnement, et que ça demande un certain coût. Après, je pense que les marques doivent se poser des questions. De un, sur qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire sur le plan produit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur le plan shipping, qu'est-ce qu'ils peuvent faire même en interne, je veux dire, de remplacer le plastique avec le papier. Il y a des choses tellement simples qu'on pourrait faire. Même, par exemple, là, j'étais contactée par Fiji qui veulent sponsoriser un défilé sur lequel on travaille. Et j'ai eu un call avec la DIRCOM de chez Fiji. J'ai
dit, de l'eau, hein,
Fiji. De l'eau, ouais. Exactement. Et j'ai dit, OK, mais qu'est-ce que vous faites sur le point sustainabilité? Qu'est-ce que vous faites sur le point environnement? Qu'est-ce que vous faites, en fait? Parce que là, vous.
T'es en plastique, c'est un vrai sujet.
Ouais. Et en fait, elle m'a dit que s'il n'y avait pas vraiment de plan immédiat sur, que c'était une discussion en interne, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'action immédiate qui allait être prise. Alors j'ai dit, OK, impossible. Impossible pour nous. Ça sert à rien, en fait. On va pas s'aligner avec une marque qui n'est pas en train de confronter vraiment le problème. Ça sert à rien, en fait. Alors, il y a ce genre de choix aussi qu'une marque peut prendre. Il y a, même si on n'arrive pas à mettre en place des changements sur le plan, sur le supply chain et sur la production des vêtements en eux-mêmes, il y a toujours l'axe caritatif. Ça veut dire qu'on peut toujours, le mois d'avril, par exemple, c'est un mois très écologique. Il y a Earth Day, le jour de la planète, qui est le 22 avril. Et c'est très facile pour une marque de dire, OK, ce mois-ci, on va verser 15% des bénéfices pour tel et tel. Ça, c'est facile. Ça, c'est le plus facile à faire, je pense, de base. Mais après, je pense qu'on doit regarder à notre mode de fonctionnement quotidien et comprendre quelles sont nos habitudes de consommation. Et il y a Nicole Phelps qui a écrit un article récemment qui a dit, le futur de la mode, c'est le vintage. Et le sustainable, je sais même pas comment dire sustainability en français.
Le développement durable.
Ouais, le développement durable.
Développement durable.
Voilà.
mais bon, je pense que tout le monde comprend le sustainable. Je suis assez d'accord. Comment dire, pour toi, là, ouais, j'avais une question, mais tu y réponds d'une certaine manière en disant ça. Mais pour toi, la marque la plus sustainable du monde, elle devrait ressembler à quoi?
En fait, je pense qu'on doit vraiment prendre le temps pour réfléchir à tout processus. Tu vois, rien devrait être au hasard. Tu vois, tout doit être réfléchi. Ça veut dire que, en fait, le problème, quelque part, c'est que aujourd'hui, on est tellement on vit dans un monde digital, on est complètement accro au téléphone, au contenu, on demande de la nouveauté tout le temps. Le problème, c'est que les marques on se penche vers les mauvaises habitudes humaines. Ça veut dire que c'est nous qui vont nourrir cette besoin de nouveautés constantes, en fait. Alors, le fait que Zara, je sais pas, je crois que toutes les deux semaines, il y a des nouvelles collections qui arrivent en boutique. Mmh. C'est nous qui nous, c'est en fait les marques qui s'adaptent aux envies des humains. Mmh. Alors, les humains doivent changer leurs envies.
Aux faiblesses des humains.
Mmh. Ouais. Alors, après, je comprends ça. Je veux dire, c'est un business qui est basé sur la profitabilité, dont la majorité des business sont basés sur tu vois. La mode est devenue tellement énorme aussi où veux dire il y a même des fonds d'investissement basés à San Francisco qui créent des marques comme Everlane et Away où c'est des marques qui sont pas nées par une créativité innée, c'est des marques qui sont créées par un manque d'un certain produit dans un marché à un certain prix où ils voient juste la stratégie de marketing digital et ils voient un pourcentage du marché qui pourrait s'intéresser à ce produit et en fait des marques sont créées avec d'autres buts en place, qui sont des buts de se vendre, et pas le but de juste créer...
Sauver la planète, ouais.
C'est ça, il n'y a pas de... Comment dire, il y a... C'est, je ne sais pas, il y a la dignité, je veux dire, merde, je veux dire, c'est OK d'avoir une ambition d'être juste une marque qui fait un très beau produit, qui est bien fait, à un bon prix, qui ne fait pas du mal à la planète et qui est digne. Je veux dire, je trouve qu'il y a beaucoup de fierté dans ça. Mmh. Et aujourd'hui, je veux dire, même on voit ce qui s'est passé avec Raph G. Calvin Klein. Je veux dire, il y avait une telle pression pour atteindre des ventes. Clairement, ils vont même pas laisser, je sais pas, à mon avis, suffisamment de temps pour.
Ouais, ça a duré un an et demi.
Ouais. Alors, ceci dit, il y a une pression sur la profitabilité qui est vraiment immense. Et ceci dit, ça met des pressions sur les marques à se comporter d'une manière qui est pas en harmonie avec la planète, en fait. Après, voilà, c'est le monde dans lequel on habite. C'est un monde capitaliste. C'est dur de comment dire. On va pas. C'est dur d'obliger à toutes les marques de se comporter de la même manière, mais au moins dans mon bureau, j'ai besoin de me sentir bien. J'ai besoin de croire en fait dans la marque. Mmh. Si j'y crois pas, si j'arrive pas à me, si j'y crois pas, c'est pas possible, tu vois. Et même si c'est pas une marque qui est de A à Z sustainable, je sais que si c'est une marque qui
veut faire les choses bien.
Exactement. Que quelque part il y a une conscience où il y a une dotation caritative, où il y a quelque chose où tu sens que les exécutifs de la marque sont conscients de leur impact et de surtout voilà, par exemple je travaille avec une marque comme Zadig et Voltaire, ils ont plus de 300 boutiques dans le monde entier, c'est vraiment une marque c'est comme un, voilà, c'est un Ralph Lauren français, je veux dire, c'est une marque qu'on connaît tous depuis tellement, je veux dire, c'est une marque
ouais, qui est installé dans le paysage, c'est clair.
Exactement, qu'on connaît tous très très bien. C'est quand même c'est quand même influent quand t'as autant quand les gens te connaissent autant, quand t'as 300 points de vente dans le monde entier, ça veut dire que t'as 300 occasions
de prendre la parole. Ouais.
Exactement. Alors en fait, t'as vraiment une très grosse influence sur le peuple, quoi.
Sur la société, ouais.
Ouais. Alors même si je veux dire, et c'est très dur de le dire, je veux dire, c'est très très dur d'être un produit sustainable de A à Z, mais oui, quelque part, on veut sentir qu'on réfléchit, en fait, tu vois, que c'est réfléchi et que... Attends, je vais peut-être ouvrir.
Vas-y, vas-y, vas-y. Si, si. Tu veux que je te relance comment ? Je comprends. J'ai compris ce que tu voulais dire. Comment je te relance alors ? Par exemple, Zadig et Voltaire. Tu parlais de Zadig et Voltaire. Tu disais que Zadig et Voltaire avaient un impact sur la société. Enfin, du fait de leur taille, ils avaient une vraie influence sur la société. Et...
Exactement. En fait, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir d'avoir la chance de pouvoir parler à autant de personnes. Et c'est un pouvoir qu'on ne peut pas. Comment dire? Qu'on le saisisse quelque part et qu'on fasse du bien avec cette audience. Et en fait, j'aime beaucoup, par exemple, Kering. Ils ont embauché des chiefs. Je veux dire, il y a des quand il y a des exécutifs, c'est des nouveaux postes qui se créent. Je trouve ça vraiment brillant, des exécutifs qui sont dédiés pas seulement le développement durable, mais quels sont nos objectifs caritatifs, quels sont on exprime quoi? On exprime quoi? Parce qu'une marque, c'est son produit, mais c'est aussi son message, mais c'est aussi ce qu'on croit. Si une marque était une personne, cette personne serait qui? Ce serait quelqu'un qui est, tu vois, qui est féministe, qui est ci, qui est ça. Et c'est important d'être clair, mais en même temps d'être réfléchi, en fait. Et d'être conscient, c'est tout. Tu vois, on ne peut pas se permettre d'être pas conscient. Voilà.
Quand tu prends une nouvelle marque, est-ce que tu as un framework, un petit mot anglais que tu utilises? Est-ce que tu peux nous en donner quelques éléments, en tout cas, pour donner des pistes aux jeunes créateurs qui cherchent à se développer?
Oui. De un, il faut vraiment étudier le marché et il faut comprendre pourquoi mon produit. Est-ce que le prix est meilleur? Est-ce que le produit est fait de manière améliorée? Pourquoi mon point de vue? Pourquoi moi? Vraiment, il faut se poser cette question. Parce que bon, le marché, c'est intéressant parce que ça te permet de comprendre toi en tant que consommateur. Est-ce que un consommateur existe? Est-ce que sur le plan produit, la proposition créative et la proposition financière est-elle bonne, en fait? Par exemple, le 18 carats en joaillerie aux US, tout le monde s'en fout. Tandis qu'ici, c'est très important quand on achète un bijou que ça soit du 18 carats ou plus. Tandis que les Américains, ils ne peuvent pas justifier dans leur tête pourquoi payer plus pour que ça soit du 18 carats. Alors ça, c'est une étude de marché, en fait, de comprendre des tendances du consommateur et de vraiment créer un produit qui est aligné. Ouais. Ça, c'est une partie. Une autre partie, c'est, oui, je veux dire, une expression créative. Il faut que ça vienne de son fond, quoi. Il faut que ça soit naturel quelque part. Il faut que ça soit une expression vraie, en fait, vraie. Quand on est faux ou quand on fait du make believe, quand on fait semblant, ça sent tout de suite et c'est en fait dans le monde de la presse, les rédacteurs, les quelques influenceurs. Mais quand je dis influenceur, je préfère le mot leader de pensée, thought leader,
ouais.
Leader d'opinion, parce qu'aujourd'hui c'est ce genre d'influenceur qui m'intéresse. Et j'ai pas trop envie de parler des autres, pour être honnête.
Ouais, c'est plutôt les gens qui ont un
point de vue,
un vrai point de vue, des activistes, ce genre de personnalité.
Exactement, ouais. Une opinion qui sont conscients et qui réfléchissent, en fait. C'est juste ça. Et en fait, il faut réfléchir, parce que ce genre de personnes, ils vont ça se voit tout de suite, ça se sent si t'es dedans, ça se sent si c'est honnête ou si c'est pas honnête. Ouais. Il faut que ça soit honnête. Et il faut pouvoir tout justifier quelque part. Et même si c'est une justification il faut que tu puisses défendre ton truc, tu vois, mais de manière naturelle. Après, la partie commerciale est quand même importante, dans le sens que je sais qu'à l'époque, je sais pas, dans le L français, je sais que tu peux aller jusqu'au bout du magazine et il y a le nom de la boutique avec le numéro et que tu peux appeler et dire j'adore ce pull, est-ce que je peux l'acheter? Aujourd'hui, au moins aux États-Unis, ça se passe pas du tout comme ça. Aujourd'hui, il y a des si t'es pas vendu sur Net-a-Porter ou Shopbop ou Spring ou Orchard Mile ou dans un des très gros exactement e-tailer online.
Ouais.
En fait, les Condé Nast et les Hearst, ils ont des partenariats avec ces gros géants du e-commerce où ils sont versés une commission sur chaque achat. Ça veut dire que si telle et telle marque, Yasmine, qui est vendue sur Net-à-Porter, s'ils créditent Net-à-Porter dans l'apparition, si quelqu'un clique sur cette apparition online et qu'ils sont redirigés vers le site Net-à-Porter, ils vont toucher une commission de cette vente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le wholesale, quelque part, est toujours vivant parce que...
Il y a ces mastodontes.
Exactement, et on peut bénéficier aussi des gros partenariats que des e-tailers tels que Net-à-Porter ont établis avec des grandes maisons de publishing et de publication. Alors, le wholesale et le réseau wholesale est quand même important et ça nous aide à comprendre aussi la cible, mais je trouve que ça aide à contextualiser. Par exemple, Foufou, elle vient d'entrer chez Dover Street Market. Et c'est parfait pour elle. Je veux dire, elle se retrouve, elle est à la maison, quoi. Ouais. Et c'est super parce qu'on va, tu vois, c'est une maison. En fait, on va faire des événements. Ça permet de se retrouver un peu dans une famille créative, dont des petites boutiques plus niches ou plus pointues. En fait, tu te retrouves dans une tribu, dans une famille créative. Et la mode est devenue tellement énorme que c'est pas juste la mode. Tu vois, il y a la mode. Il y a un peu une mode ironique, où il y a une mode luxe du premier degré, où il y a une mode plus old school italienne, où il y a une mode américaine online, il y a une mode... Tu vois, il y a tellement de différentes...
sous-catégories, même.
Catégories, ouais. Exactement. Qu'en fait, il faut tout de suite comprendre où est-ce que ça fit.
Mais il faut qu'on puisse te mettre dans une boîte, finalement. Enfin, il faut te mettre dans un... Ouais, dans une boîte, hein, c'est ça.
Ouais.
En fait, il y a tellement d'offres aujourd'hui que il faut que le message soit hyper clair et que, ok, toi t'es Dover Street Market, donc
complètement.
Toi t'es Net-à-Porter.
Il faut que ça soit simple. Si c'est pas simple, si c'est pas presque stupide, tu vois ce que je veux dire ?
Si ça peut pas prendre. Parce qu'il y a trop de bruit.
Non. Surtout pour une nouvelle marque. C'est différent pour une marque avec
un patrimoine, une histoire.
Exactement.
Ouais.
Mais pour une nouvelle marque, il faut que ça soit extrêmement simple. Il faut qu'on comprenne et je pense qu'on est tellement bombardé avec des messages. J'ai lu qu'l'être humain reçoit 10 000 messages par jour. Et quand je dis message, ça veut dire un message de publicité, que ça soit à la télé, sur ton téléphone, sur un billboard, que ça soit une affiche, 10 000 messages par jour. Alors pour se rappeler de même 3 des 10 000 messages, il faut que ça soit très
très impactant.
Très impactant. Et il faut que ça soit honnête et vraiment génial, mais juste génial, cool.
T'as des exemples ?
Est-ce que j'ai des exemples ?
Des trucs vraiment percutants qui sont sortis ces 3 derniers mois, quoi.
Ben là, on vient de lancer une nouvelle marque. C'est un nouveau client et je suis tellement fière, vraiment fière de cette marque parce que je pense qu'ils ont vraiment... Toutes les boîtes sont checkées et c'est un beau produit fait avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de recherche et c'est un très beau produit. C'est l'ancien directeur artistique de Calvin Klein qui s'appelle Francisco Costa, qui était là-bas pendant 14 ans. Il est parti juste avant que Raph soit arrivé et ces dernières années chez Calvin, il a commencé un projet. Un concept beauté en fait qui est assez innovateur dans le sens que beaucoup de marques de beauté aujourd'hui, Marc Jacobs, Tom Ford, etc. C'est des marques de beauté mais qui restent quelque part très commerciales. Par exemple, la femme qui achète Chanel le parfum, c'est pas la femme qui va acheter le tailleur en tweed.
Ouais, ah oui.
Alors il y a toujours eu cette différence en fait entre le consommateur beauté et le consommateur mode.
Ouais.
Et Francisco, avec sa proposition beauté, en fait, nous aide à créer le pont en fait entre ça. Il est parti en Amazonie. En fait, il est brésilien à la base. Il est parti en Amazonie 3 fois. Et c'est pas un voyage qui est simple. C'est 10 heures de vol pour aller jusqu'à Rio. Après, c'est 6 heures de vol jusqu'à Brasilia. Après, c'est un autre mini vol. Après, c'est un canoë pendant 6 heures pour monter la rivière. Après, c'est pas simple, mais il a senti au fond de lui-même qu'il voulait rentrer au Brésil et vraiment reconnecter avec l'Amazonie. Et c'est quand même les poumons du monde entier. Je crois qu'il y a 20% de l'oxygène sur la planète qui vient de l'Amazonie. Et là, il y a un gros problème aujourd'hui, surtout avec le nouveau président qui fait assez peur, qui est la déforestation. En fait, l'agriculture qui...
L'intensive, ouais, pour nourrir les bestiaux, pour fabriquer de la viande.
Oui. C'est ça, ouais. Et surtout les arbres. Je veux dire, on coupe les arbres pour créer des champs agricoles. Et c'est vraiment un énorme problème parce que il y a tous les lobbying au Brésil sont pour l'agriculture, ils sont pour le business et ils ne font absolument rien pour protéger leurs forêts. Alors Francisco, qui a eu la chance de pouvoir prendre un peu de temps pour lui après sa carrière très riche chez Calvin parmi d'autres créateurs, est rentré en Amazonie et il est parti avec deux très gros groupes de cosmétiques où en fait il a été présenté deux, même trois ingrédients dont deux sont entièrement exclusives à sa nouvelle marque qui s'appelle Costa Brasil, qui en fait est une marque qui est entièrement sustainable de A à Z. Ça veut dire que tous les ingrédients sont sourcés en harmonie avec la nature. Ça veut dire que on travaille avec un ingrédient qui s'appelle kaya, qui vient d'une noix qui s'appelle l'arbre sapucaia, qui est assez fréquent au Brésil. On doit attendre que la noix tombe de l'arbre. La noix, elle s'ouvre naturellement. Et on a pris les graines de cette noix et on les a pressées pour extraire de l'huile qui a jamais été utilisée jusqu'à maintenant dans un produit de beauté. Alors, il y a kaya. Après, il y a cacao oil, qui est comme de l'argan, mais fois 5. En vitamine E, en lipides, en plein de protéines, etc., qui sont très très bonnes pour la fermeté et la luminosité du visage. Et le troisième ingrédient qui est vraiment fascinant, qui s'appelle le breo, qui est en fait un résine qui se trouve sur un arbre qu'on peut que récupérer le matin avant que ça se... Bref, c'est un produit qui est vraiment incroyable avec des ingrédients qui n'ont jamais été utilisés. Et on travaille en partenariat avec une organisation qui s'appelle Conservation International, qui sont personnellement responsables d'avoir planté 75 000 arbres dans l'Amazonie par an. C'est une non-profit, une organisation qui existe depuis 30 ans. Il y a Joe Biden qui est peut-être, on espère, notre futur président des États-Unis qui est au bord de l'organisation. Alors, on est en partenariat officiel avec eux sur le long terme et ils nous aident avec l'implémentation de toutes les meilleures manières d'extraire des ingrédients pour justement développer cette marque, dont le packaging est fait d'une canne de sucre recyclée. Enfin, tout est réfléchi. Ceci mélangé avec une esthétique extrêmement raffinée, brésilienne, on pense à l'architecture Niemeyer, avec toute la finesse du Brésil qui est chaleureux, mais qui est architectural et qui est vraiment très très beau. Et il y a une diversité naturelle avec les Brésiliens, veut dire les Brésiliens, que ça arrive, c'est noir, c'est blanc, c'est chinois, c'est tellement divers qu'en fait, cette marque... C'est une marque incroyable. Okay. Voilà. Et on a lancé ce produit il y a un mois et voilà, c'est vraiment excitant d'être dès
le
début.
Là, il y a un vrai appel d'air, ça cartonne. Ouais.
Voilà.
Voilà.
Quand je prends une marque, en fait, il y a le concept des 3 F. Ah. Il y a le fame. Est-ce que la marque, elle est connue? Les finances. Est-ce que ça paye le loyer, les salaires? Et le fun. Est-ce que c'est fun? Est-ce qu'on s'amuse? Ouais. Et une marque parfaite, c'est... Et après, c'est très personnel, parce que ce qui est fun pour quelqu'un, c'est pas fun pour quelqu'un d'autre. Mais il faut que ça tique au moins deux des trois boîtes. Mais normalement, il faut que ça tique les trois boîtes, quoi. Il faut que ça paye un petit peu. Il faut que ça soit juste dans le prix. Il faut que ça... Tu vois, c'est toujours bien quand c'est un peu connu. Même si c'est pas connu, il faut que tu sentes qu'il y a le potentiel pour que ça soit connu, parce que c'est... Il y a un truc, quoi. Tu sens. Et après, il faut que ça soit fun.
Ouais, il faut que tu t'amuses. Ouais. Et c'est quoi, alors, la pâte Sophie Roche-Conti? Est-ce que vous avez une pâte? Comment tu te définis?
Investi. Très investi. Très personnel. Je pense que j'ai un point de vue qui est plutôt global. Ça veut dire que je suis basée aux États-Unis, mais mais je pense que c'est... Le monde est plus global aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a tort de se limiter à que regarder ce qui se passe dans notre propre marché. Ça veut dire qu'il y a des magazines à Londres qui sont absolument sublimes, qui n'existent pas, qu'on n'a pas du tout aux US. On a des magazines et des, même pas que des magazines, mais des personnalités, des gens, les thought leaders. C'était quoi le mot en français?
Les leaders d'opinion.
Les leaders d'opinion qu'on doit
connaître.
Il faut s'intéresser à un peu.
Mais
ouais.
Aujourd'hui, comment tu fais? Parce que tes journées sont pas extensibles. Tu dois choisir tes sources. Tu regardes quoi?
Je sais pas. Je m'intéresse. Ça veut dire que j'essaie de voyager pas mal pour de me donner des excuses pour voyager aussi. Pour voir sur le terrain, tu vois, et pour et après voilà, je veux dire, il y a des kiosques de magazines, c'est sympa, tu vois, voilà, dépenser $50, acheter 3-4 magazines intéressants, et de, en fait, il suffit de regarder la chose la plus prescripteur, et ça nous aide à comprendre où on est, en fait, parce que en fait le print aujourd'hui est intéressant quand ça nous explique quelque chose qui n'est pas, en fait, des news. Tu vois, si on veut des news, si on veut des actualités, on va sur New York Times, tu vas sur Business Fashion, tu vas regarder sur ton téléphone. Les actualités, c'est bien, le digital et les actualités sont un peu mariés. Mais, en fait, pour le print, je veux dire, on aime toujours tous avoir un beau livre à souligne, je veux dire, chez soi. On aime avoir des belles choses, on aime les beautés, la beauté quand même, je veux dire, même une belle affiche, une belle. Alors, en fait, je pense que c'est juste une nouvelle manière d'aborder le print, où en fait, c'est le véhicule de. Quel est le meilleur véhicule pour ce genre d'information? Et voilà, je pense que c'est juste important d'avoir une perspective un peu globale, c'est tout. Même si on travaille à Paris, même si on travaille à Londres, même si on travaille quelque part d'autre, il ne faut pas se limiter à que ce qui se passe chez soi, même si c'est très important d'être très local aussi. Je pense que quand tu es une marque, il y a deux choses qui sont importantes. Numéro un, le produit. Et numéro deux, c'est ta communauté. C'est tes amis, c'est les gens qui sont autour de toi, c'est les photographes avec qui tu travailles, les stylistes avec qui tu... c'est un peu ta famille, quoi. C'est ta clique. Mais sans être trop cliquy non plus, veux dire, c'est bien d'avoir des gens avec qui tu te sens bien, mais d'être curieux et de voir ce qui se passe autre part, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, on n'a jamais toutes les réponses. Et il faut se poser des questions tout le temps. Et les gens qui sont trop, quelque part, j'ai envie de dire, les gens qui sont trop à l'aise et confortables, c'est ça la mort, en fait.
Oui.
Tu peux pas. On ne peut pas. Parce que le monde évolue tous les jours et il faut qu'on reste sharp et curieux. Et voilà. Mais il faut qu'on prenne du plaisir en même temps. Alors, c'est quoi la patte? C'est que oui, je suis investie. Après, tu vois, il faut poser des limites. Tu vois, il y a des moments où voilà, si un dimanche matin, vraiment, je peux pas répondre à ton appel parce que je peux pas. Voilà, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. On est également dans un, voilà, en fait, c'est drôle parce qu'on est dans une période qui est très wellness focus, tu vois, c'est très wellness, le bien-être soi-même, etc.
Méditation, yoga.
C'est ça. Et en fait, on fait ça parce qu'on est tellement pourri par tous les outils de communication où on est tellement accro tous les jours qu'on doit se donner ce temps pour le wellness. Non, c'est bien, c'est important, c'est important.
Qu'est-ce que tu ferais différemment dans tout ce que tu as entrepris jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des choses que tu zapperais ou au contraire que tu ferais en plus?
Je pense que voilà, j'ai que 30 ans. Bon, j'ai quand même 30 ans, tu vois, c'est quand même voilà, c'est 10 ans de travail, mais j'ai hâte dans cette prochaine décennie. En fait, j'ai beaucoup bougé dans ces 10 ans en termes de ville, en termes de... J'ai toujours été investie, j'ai vraiment accroché, mais là, je suis vraiment bien, je suis vraiment bien dans mon bureau, je suis bien avec mes clients et j'ai juste hâte de vraiment me concentrer sur ça et de... Et en fait, voilà, de me concentrer sur mes clients et de vraiment... de voir comment le monde change et comment, comment on peut se développer avec, avec ces changements, mais avec, avec cette communauté de clients qui sont vraiment géniaux. J'ai vraiment des super marques avec qui je travaille. Je suis vraiment ravie de prendre ce tournant et de voir ce qui se passe dans le futur. Mais je n'ai pas de regrets. Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets, mais après, il faut apprendre. Il faut se dire, OK, j'ai fait beaucoup de si, mais il y a ça qui me manque. Alors, je pense qu'il faut s'écouter, il faut être un peu intuitif aussi. Et voilà, on n'a qu'une vie, alors il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour se lancer dans une nouvelle voie. Et je pense que souvent, on est mise dans une boîte pour dire « Toi, t'es rédacteur. Toi, t'es attaché de presse. Toi, t'es créateur. Toi, t'es ci. Toi, t'es ça. » Et en fait, tu peux faire plein de choses. Il faut juste avoir la, la vision et il faut le sentir. Il faut le sentir en soi, mais et la passion et la détermination. Mais je pense qu'on peut vraiment tout faire. Mais je suis très contente avec ce bureau et j'ai vraiment la chance. Je suis contente de pouvoir un peu jouer voilà, avec, avec tous les outils de nos clients et tout. Voilà, on a des beaux événements qui ont arrivé là, des belles collaborations. On vient de signer avec Roxy Quicksilver, la marque de surf. Je suis trop contente parce que j'ai vraiment une... Cette marque, en fait, elle est née d'une passion autour du surf. Alors, quelque part, c'est une marque tellement authentique et très vraie. Mmh. Et même si c'est pas... Je veux dire, il y a tout ce genre de mode, mais j'adore ce genre de mode parce que c'est vrai, quoi. C'est vraiment très vrai. Et ils viennent muter leur siège à Biarritz. Tout le siège mondial de Quicksilver, Roxy sont à Biarritz. Ils ont muté, je sais pas, 300 personnes de la Californie, 100 personnes d'Australie. Alors, c'est fou, c'est vraiment fou. Et le siège, c'est complètement écologique, c'est complètement solar powered, c'est au bord de la mer, c'est juste un endroit absolument sublime. Et c'est très inspirant, en fait. Et on est en train de bosser sur plusieurs projets sur... le confiance des jeunes femmes. Et il y a que ce genre de marque en fait qui peut communiquer d'une manière qui est aussi naturelle et authentique que Roxy en fait. Alors j'aime beaucoup et je suis très contente de pouvoir voilà, il y a des beaux projets qui sont là en 2019 en tout cas.
Trop bien, cool. Et bon, on arrive à la fin hein, parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce qui te drive toi? C'est quoi ton moteur?
De toujours voilà toujours aller plus loin, toujours de toujours vouloir faire mieux, de toujours c'est de savoir se célébrer, mais aussi veux dire c'est hyper important d'avoir faim et d'être ambitieux parce qu'en fait c'est ce qui je sais pas c'est ce qui te fait c'est ce qui te donne l'envie de sortir du lit le matin quoi. C'est de voir une marque prendre une ampleur, de voir quelque chose se construire, se créer, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est cool. C'est cool de voir les fruits de son travail, c'est cool de voir un business se développer, surtout un business qui mérite d'avoir une lumière, une créatrice ou un créateur qui mérite d'avoir une reconnaissance. C'est vraiment cool de voir ça. Et en fait, notre travail est complètement behind the scenes. Mais c'est génial parce que quelque part, oui, t'es le porte-parole, quoi. T'es quand le créateur n'est pas là, c'est toi qui portes la parole de la marque et tu dois représenter ces valeurs et comprendre et j'ai juste hâte de continuer à faire ce que je fais. Et voilà, et de pouvoir créer une équipe avec des gens qui sont contents d'être là, également passionnés. Et voilà.
Très bien. Eh ben, on va s'arrêter sur ces jolis mots. Dernière question que je pose toujours à mes invités, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Qui souhaiterait quoi ? Entendre ?
Ouais, qui est-ce que tu souhaiterais entendre dans mon podcast ?
Oh my God !
Oh my God !
Sandrine Serre, de chez Dior.
Sandrine Serre, de chez Dior.
Sandrine Serre.
Ok, très bien.
Voilà.
Parfait. Eh ben,
la balle est à toi.
Merci beaucoup et bonne continuation, bonne chance pour la suite et à très bientôt. Salut.
Merci.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.